Les solutions crédit. Un podcast proposé par Dynasty AM, présenté par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous et à toutes, je vous suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Solutions Crédit en partenariat avec Dynasty AM. On est ravi d'accueillir sur le plateau Laurent Pluchart. Bonjour Laurent.
Bonjour Fabrice.
Le directeur général de Dynasty AM et dans son bureau, Simon Roger, donc à distance. Bonjour Simon.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes gérant chez Dynasty AM. Alors ensemble, on va s'intéresser à l'actualité financière, bien évidemment, avec cette hausse de l'inflation. Quel est l'impact de la hausse de l'inflation sur les convertibles et le crédit subordonné? Donc déjà, il va falloir nous expliquer tout ça. En tout cas, on sait que dans un contexte de hausse de l'inflation, de remontée des taux de la part des banques centrales, en tout cas c'est prévu, a dit le patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, pas très habilement d'ailleurs. Comment le marché du crédit est-il impacté? En particulier, cette situation recèle-t-elle des opportunités sur le marché des obligations convertibles, sur le marché du crédit subordonné? Pour en discuter, donc nos deux experts sont là. Une première question, Laurent Pluchart, on va quand même resituer ce que fait Dynasty et ses métiers de base.
Oui, merci Fabrice. Dynasty AM est une société de gestion. Nous gérons 8 fonds. Nous sommes spécialisés sur les obligations, donc des obligations convertibles, investment grade, subordonnées et high yield. Au total, nous sommes 16 personnes et nous gérons un peu plus de 1,1 milliard d'euros.
Mmh. Vos clients?
Nos clients sont surtout des banquiers privés, family office, CGP.
Très bien. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette question de l'inflation qui ressort. Alors évidemment, on a eu une année 2021 exceptionnelle en termes de croissance. Il y a eu des pénuries, il y a eu une reprise de l'inflation qui a surpris un petit peu tout le monde. On le voit, forcément, ce qui devait arriver arrive. Des menaces, ou du moins c'est assez logique, les banques centrales qui disent, ils sifflent la fin de la récré, on a eu de l'argent pas cher, on est en train de peut-être de remonter les taux dans les prochains mois.
Oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord. En fait, la particularité de nos fonds, on est sur des durations très très courtes. Donc on est entre 0,5 et 3 maximum, 3 années de duration. Simon va vous faire un petit point justement sur notre philosophie de gestion par rapport à cette remontée de taux attendue et cette inflation.
Alors justement, on se tourne vers Simon. Simon Roger, vous êtes sur les écrans toute la journée. Vous suivez ça, bien évidemment. Et puis les petites phrases du côté de la Banque centrale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis de gérant, votre analyse sur cette remontée de l'inflation? Jerome Powell qui va sans doute, en tout cas il l'a dit, remonter les taux. Et les marchés du coup qui sont un petit peu turbulents, un petit peu agités, en tout cas sur le marché actions. Est-ce que c'est la même chose sur le marché du crédit?
Alors, vous avez dit Fabrice que cette inflation, ce retour de l'inflation et les craintes sur la remontée des taux directeurs de la Fed étaient une surprise. En fait, c'était pas vraiment une surprise, en tout cas pour Dynasty. On a dit assez tôt que l'inflation n'était pas transitoire. On voyait tous les jours dans notre vie quotidienne le prix du paquet de pâtes qui augmentait. Tout le monde disait non, c'est rien, c'est normal, c'est transitoire. Le prix d'un conteneur en Chine qui passe de la location de 3 000 $ à un pic de 20 000 dollars. Aujourd'hui, on est autour de 15 000 dollars. Non, c'est transitoire, tout va se résorber. Non, ne pensez pas ça. En fait, on a très tôt augmenté la poche, on va dire, pour contrer l'inflation dans nos portefeuilles via différentes stratégies, notamment des investissements sur des sociétés avec un fort pricing power ou des investissements sur des minorifères.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu des effets de bord, là, justement, ou peut-être des opportunités sur le marché du crédit, Simon?
Alors, il y a eu complètement des opportunités, en fait, sur le marché du crédit convertible. Tout simplement, en fait, si on regarde, il y a 50% des sociétés du Nasdaq 100 qui ont perdu la moitié de leur valeur sur leur plus haut sur un an, en fait. Donc là, on dit le Nasdaq, depuis le début de l'année, perd 15%, on est sur une correction, on n'est pas sur un crack, pour l'instant, tout va bien. En fait, pas du tout, parce qu'on a un peu l'arbre qui cache la forêt, et cet arbre, les GAFAM.
Et donc les GAFAM, les 5 premières valeurs en capitalisation, bien sûr à Apple avec ses 3 000 milliards, peut-être un petit peu moins en ce moment. Derrière, il y a Microsoft qui était à 2 500, Facebook qui s'appelle maintenant Meta, il faut suivre, Google, je l'ai cité, Amazon et puis bien sûr Microsoft. Donc on les a et eux, ils n'ont pas tellement perdu, en tout cas ils n'ont pas essuyé 50% de baisse. Par contre, c'est vrai qu'on a énormément de valeurs, on pense à des petites qui ont été sévèrement sanctionnées, comme Netflix qui ont déçu. Bon, il y a Peloton dont on a beaucoup parlé, etc. Est-ce que ce sont ces valeurs justement sur lesquelles, ben voilà, elles avaient émis bien sûr de la dette. Du coup, ça crée des turbulences.
Ça crée des turbulences. Typiquement, vous voyez, Peloton avait une obligation convertible, a émis une obligation convertible l'année dernière. Aujourd'hui, cette obligation traite largement en dessous du pair. Donc, vous avez, on peut utiliser l'expression, vous avez eu du sang sur les murs. Typiquement, sur le fonds Dynasty Global Convertible ou sur le fonds Dynasty Convertible Europe pour les convertibles européennes, on n'était pas sur ce type de société, tout simplement parce qu'on va être sur des sociétés qui vendent un peu, voilà, une poudre des, la poudre pour les yeux, des sociétés qui étaient valorisées 50, 60 fois leurs ventes. Attention, hein, je parle même pas du profit, je parle des ventes. Pour nous, c'était des valorisations qui étaient complètement délirante et on n'était pas sur ce type de produit.
Avec
les,
Laurent,
les GAFAM n'ont pas de convertible en fait.
Alors tiens, on peut rappeler quand même, si on demande au gérant, sur les convertibles, c'est quoi en fait en deux mots?
En deux mots, une convertible.
Obligation enfin, convertible.
C'est une obligation qu'on peut convertir en action.
C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un coupon et d'être remboursé...
Vous avez toujours un coupon et vous avez un remboursement, un coupon, voilà. Mais avec l'option de convertir en action. Donc, grosso modo, sur le long terme, vous faites la même performance que les actions pour seulement un tiers de la volatilité. Donc, pour nous, c'est vraiment un produit qui est exceptionnel, surtout dans des marchés volatiles. Et comme vous disiez, Fabrice, c'est qu'aujourd'hui, ça permet d'absorber ces chocs de volatilité, même comme il y a du sang sur les murs. Ouais. Mais ça les amortit fortement et ça nous permet de dormir tranquillement. Donc, notre gestion, elle reste justement avec une exposition modérée au risque, puisque notre sensibilité aux actions est seulement de 35% aujourd'hui sur le fonds monde et de 38% sur le fonds Europe. Donc, on arrive à absorber ces chocs de volatilité sur les marchés.
Voilà, obligation convertible en action, évidemment à un certain prix. Ça veut dire que si le prix chute, comme disait Simon tout à l'heure, bah voilà, l'obligation, elle est moins intéressante puisque si on convertit du Peloton au plafond, bah plus personne n'en veut puisqu'on peut l'acheter au marché à beaucoup moins cher. Est-ce que du coup, ça vaut pas le coup, Simon, d'en acheter en ce moment où il y a justement ce bain de sang, en tout cas sur les marchés, où il y a des titres au tapis? Est-ce que là, on peut ramasser du papier à bon compte ou c'est pas une bonne stratégie?
Alors tout à fait, en fait, donc on le voit depuis le début de l'année, on a eu la classe d'actifs, du coup désenchérie, les primes, les sensibilités à actions ont un peu diminué, mais on a un véritable désenchérissement sur les obligations convertibles et aussi sur on parle donc voilà de ces sociétés type Nasdaq qui ont énormément perdu. Vous avez d'excellentes sociétés qui ont perdu 10-15% de leur capitalisation depuis le début de l'année, ce qui n'est absolument pas justifié.
Pardon.
C'est pas parce qu'il n'y a plus de sensibilité aux actions si ça baisse que la convertible ne reste pas intéressante.
Hein. Eh oui, puisqu'il y a toujours le coupon.
Parce que justement dans nos fonds, on a des convertibles de type obligataire, ce qu'on appelle mixte, avec un delta aux alentours de 50%, ou complètement actions. Et on a un exemple justement ces derniers jours avec Orpea qui était une valeur qui a été très controversée, qui s'est écroulée en bourse. Et en fait, il y a une obligation convertible sur Orpea qui est en 2027 qui rapporte du 4,3 de rendement, donc ce qui est un très bon rendement, alors que l'obligation classique 2028 qui est de la même seniorité ne rapporte que 3%. Alors, il y a 1,3 de rendement supérieur sur l'obligation convertible. Pourquoi ? Parce que cette classe d'actifs est une classe d'actifs de niche, il y a moins de participants. Et c'est une grosse source d'opportunité.
Bien sûr. Alors, on rappelle, hein, effectivement, c'est le gadin, on va dire, de la semaine, hein, Orpea, qui a fait les frais d'un livre, d'une enquête qui est sortie, qui a défrayé la chronique sur le traitement de certains patients dans les EHPAD. Et là, effectivement, le titre a été sévèrement chuté. Il a même entraîné toute la côte, évidemment, mais tout le secteur un petit peu médical. Corian a fait les frais également. Avec une baisse du titre de 60%. Le titre était pratiquement sur les 100 €, il est à 40 €. Et pourtant, vous dites, sur l'obligation,
L'obligation convertible n'a pas de sensibilité à l'action.
D'accord,
donc elle a été assez peu impactée, finalement.
Non, mais ça, c'est très intéressant, je pense. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette classe d'actifs, de se dire que dans un monde de turbulence, et je pense que l'année 2021, on va demander son avis à Simon dans un instant, va être plutôt agité. Hein. On sent qu'il y a de la tôle ondulée, on voit surtout cette volatilité qui reprend. Finalement, c'est une classe d'actifs qui gagne à être connue, Simon.
Tout à fait. Vous parlez donc cette année qui va être agitée, comme vous le disiez Laurent, en fait, grâce à notre style de gestion et grâce aux obligations convertibles, en fait, nous, ça nous permet quand même d'être assez serein, relativement serein, et de pouvoir dormir tranquille.
Oui. Quels sont justement, alors on va mettre les warnings, les guillemets nécessaires, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais sur cette classe d'actifs, voilà, sur les fonds, si on regarde le track record, on est à combien à peu près, Laurent?
Je regarde pour ne pas dire de bêtises. Depuis la création annualisée, on fait à peu près, donc la création c'était il y a 5-6 ans sur les convertibles, on fait du 4,5 de rendement par an.
Ah, 4,5. Net. Ah d'accord. Donc c'est quand même très attirant dans un monde de taux extrêmement bas, on le sait. Et puis voilà, on sait qu'aujourd'hui la diversification c'est la clé dans ces portefeuilles. On peut avoir bien évidemment une poche action pour donner du dynamisme, mais on imagine que certains préfèrent quand même avoir un patrimoine qui s'apprécie dans la durée, sans prendre beaucoup de risques et sans volatilité. Là, c'est un bon moyen aussi de dans cette poche convertible, de la mettre en place.
C'est un très bon moyen. Et par rapport à d'autres fonds convertibles qui sont très US et très techno, comme vous disiez. Simon tout à l'heure, nous on est beaucoup plus diversifiés à travers les différentes régions du monde, mais aussi sectoriellement.
D'accord, donc diversification, ça c'est vraiment le maître mot, effectivement, sur les classes d'actifs, sur les secteurs, sur évidemment les pays. Alors on parle beaucoup hein, cette tech US hein, là, qui fait le grand plongeon, en tout cas, sauf certaines valeurs, peut-être on disait l'arbre qui cache la forêt. Simon Roger, sur les perspectives, là vous établissez bien évidemment des scénarios pour cette année 2022. Quelles sont vos anticipations ou vos scénarios de marché?
Alors sur le scénario de marché, bon, celui-là est assez consensuel, hein, donc on s'attend à une remontée des taux directeurs de la Fed. Donc on verra si on va être sur 3, 4 ou 5 hausses de taux. On voit une croissance mondiale qui est très nettement en train de repartir, et on voit donc voilà sur les grandes, on va dire, statistiques macroéconomiques. On le voit aussi sur au niveau des sociétés. On est rentré dans une série de publications annuelles trimestrielles, semestriel. Vous avez typiquement LVMH qui a publié récemment ses résultats, qui fait encore par exemple état de résultats en forte croissance. Donc on voit bien qu'il y a une forte reprise économique, et avec les obligations convertibles, avec nos fonds, nous comptons bien accompagner cette reprise économique et en profiter.
Oui, une source d'opportunité aussi sur les crédits investment grade. L'investment grade classique a très peu performé, en fait, a même des performances négatives. Et en fait, on a trouvé une classe d'actifs qui est une niche, c'est sur les obligations subordonnées. Donc, ce sont des sociétés de qualité investment grade, mais qui émettent des obligations qui ne sont pas seniors, mais subordonnées. Ce qui nous permet d'avoir un rendement hyper attractif, puisqu'on est à 2,5 de rendement actuel moyen sur le fonds. Et sur des sociétés très solides financièrement. Donc.
Alors, on rappelle, hein, investment grade, c'est bien sûr les mieux notés. Hein, bon, peut-être triple A, il n'y en a plus beaucoup, mais triple B+, etc. En général, ce sont des sociétés qui se financent extrêmement peu cher, donc qui ont effectivement des rendements, en tout cas pour les porteurs d'obligations, qui sont très très bas, de l'ordre de entre 0 et 0,5, je crois. J'ai même peut-être des émissions, peut-être pas en négatif.
Oui, il y a eu des émissions négatives il y a un an. Oui,
voilà. Tout à fait. Donc, on a l'impression que ce monde est un petit peu terminé, et là vous dites, voilà, les subordonnées, c'est-à-dire la qualité de l'obligation est pratiquement aussi bonne, mais on a des rendements qui sont 2, 3, 5 fois plus supérieurs avec ces 2,5, sans prendre là aussi avec une volatilité, un risque très contenu.
Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit pourquoi
les subordonnées, les émetteurs,
exactement, voilà. Pourquoi des subordonnées, pourquoi est-ce qu'ils émettent? Simon va vous expliquer beaucoup mieux que ça, mais c'est par rapport au ratio des fonds propres.
D'accord. Simon, alors on a besoin de vos lumières là sur ces subordonnées. Ça paraît un peu étonnant d'avoir ces valeurs finalement qui sont à peu près les mêmes ou très très résistantes, qualité investment grade, mais qui payent en fait leurs investisseurs beaucoup plus cher. Pourquoi cet effet?
Alors, vous avez différents aspects. Le principal, en fait, donc, comme vous le disiez, Laurent, c'est que grâce à la norme comptable actuelle, les sociétés peuvent comptabiliser les obligations perpétuelles dans les capitaux propres, donc dans la partie la plus solide, on va dire, de la société. Ce qui permet, en fait, tout simplement aux sociétés de garder un niveau d'endettement assez bas, tout en renforçant leur bilan, en fait. Vous avez beaucoup de sociétés qui vont émettre des obligations perpétuelles, par exemple, pour financer des opérations de fusion-acquisition, qui leur permettent, en fait, de garder, du coup, un levier assez maîtrisé, tout en émettant de la dette. Donc, Cet artifice comptable, en fait, a un coût, et ce coût, du coup, est aujourd'hui autour de 2,5% de rendement.
D'accord. Pour expliquer, est-ce que ça veut dire que ça sera un petit peu plus risqué? Je ne sais pas s'il y avait vraiment une catastrophe, la société n'était plus en mesure de rembourser. Ça veut dire que ceux qui ont des subordonnés ne seraient peut-être pas prioritaires?
Exactement, tout à fait, Fabrice. Alors, en fait, en cas de défaut de la société, c'est vraiment le seul risque, vous serez remboursé après les autres porteurs obligataires. En fait, vous serez remboursé juste avant les actionnaires, car vous restez quand même porteur d'une dette. Néanmoins, de par cette subordination, vous serez remboursé après les obligations dites seniors. Cette contrepartie, ce risque, c'est ce qu'on appelle la prime de subordination, c'est ce qui nous rémunère.
D'où l'intérêt effectivement de choisir des sociétés les plus stables et plus fiables possibles. Est-ce qu'on a un exemple? Ça va être France, Europe, international. Quel est votre spectre là, sur ces subordonnées, Simon Roger?
Alors, on est principalement en euro, zone Europe. Après, vous avez aussi des émetteurs aux États-Unis qui viennent se financer donc sur les marchés européens en euros pour émettre une obligation perpétuelle. Je pense par exemple à la société AT&T qui est vue directement se financer en euros. Ensuite, sur la zone Europe, vous avez historiquement en fait les énergéticiens qui sont assez friands de capex, qui ont des obligations subordonnées. Donc, on va penser à par exemple à Total, à BP. Vous avez aussi divers secteurs. Vous avez dans le secteur de la santé, les laboratoires, vous avez le laboratoire allemand Merck. Mmh. En France, plus connu, historiquement, le laboratoire nantais Eurofins, qui a également émis des obligations perpétuelles. Donc, vous avez quand même un scope de diversification sectorielle assez important dans l'univers.
La particularité de notre fonds, c'est en règle générale, sur les émetteurs d'obligations subordonnées, ce sont énormément de bancaires.
Ah, d'accord. Nous, secteur en forme, en pleine forme en ce moment.
On en a zéro. Ah. On a décidé de ne pas avoir de bancaires dans ce fonds. Donc ce sont que des corporates, que des sociétés.
Pourquoi pas de bancaires, justement?
Parce qu'on pense qu'on a une moins bonne visibilité.
Ouais. C'est vrai que les bilans bancaires, c'est toujours compliqué.
C'est compliqué à analyser,
pas forcément
exactement
ce qu'il y a à l'intérieur des bilans.
C'est beaucoup plus volatile, donc ça rentre un peu dans notre approche patrimoniale, de dormir tranquille, d'avoir des actifs réels.
En cas de
faillite, comme vous dites, même si c'est très peu probable sur les sociétés de qualité investment grade.
Ouais, bon, ça remonte un peu, mais on se souvient quand même de l'épisode subprime, là, où tout le monde était un petit peu affolé avec l'assèchement du crédit. Il y a quand même certaines banques qui sont passées la trapinette et, ou du moins qui ont été rachetées ou recomposées. Une question, tiens, Simon, Roger, qui me vient, c'est sur, justement, quand on est sur toutes ces zones géographiques, est-ce qu'il y a un effet change aussi sur ces obligations et comment vous le maîtrisez?
Alors, sur les obligations subordonnées, donc le fonds est essentiellement en euros. On peut avoir un peu d'obligations en dollars qui est couvert à 100%. Ça, on prend pas de risque. Sur les obligations convertibles, donc sur notre fonds Dynasty Global Convertible, bien évidemment, donc avec une exposition globale, nous avons des obligations qui vont être en dollars, en francs suisses. 100% de ce risque de change va être couvert. Alors, on considère que le Forex, c'est un autre métier. Mmh. Nous couvrons 100% de nos portefeuilles. Si vous voulez prendre le risque de change vous-même, vous pouvez investir dans nos parts libellées en dollars, en francs suisses.
D'accord.
Nous, en tout cas, à la gestion, tout est couvert.
Tout est couvert, très bien. Ça, il y a une stabilité, quel que soit, enfin, pas d'effet change, on va dire, qui peut être important en ce moment. Ça va sûrement bouger s'il y a des écarts entre les banques centrales. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette édition. C'est tout ce qui concerne la rotation sectorielle, Simon, qu'on voit en ce moment. C'est vrai que vous le disiez, les valeurs tech un petit peu malmenées, la ruée sur les cycliques en ce moment. Est-ce que vous pensez que c'est durable ou est-ce qu'à un moment, parce que l'inflation va arriver, mais on reste quand même à des taux en réel en négatif, il y aura un retour sur ces valeurs de croissance?
Alors écoutez, bon, malheureusement, je ne suis pas Madame Irma avec ma boule, donc je ne peux pas voir l'avenir. Écoutez, on verra ce que l'avenir fera. C'est sûr que voilà, aujourd'hui sur ces valeurs qui avaient profité en fait d'une liquidité abondante de la part de la Fed, on voit bien que cette liquidité ça sèche, tout simplement. Et en fait, vous avez des sociétés en fait qui ne se relèveront pas. Je vais penser par exemple l'année dernière, c'était un peu le mot à la mode. On avait les SPAC, voilà, tout le monde allait sur les SPAC. Vous avez des SPAC qui étaient, vous n'avez pas d'actifs. On parlait d'actifs réels derrière, il n'y avait pas d'actifs réels derrière. Ça valait 20 milliards. Aujourd'hui, vous avez ces sociétés qui ne valent plus que 1 milliard. Personnellement, je vois pas comment ces sociétés vont pouvoir rembourser leurs dettes quand elles en ont. Je peux pas vous prédire qu'elles vont les rembourser, mais en tout cas, nous, ne voyant pas comment, on ne va pas aller dessus. Citer rien qu'une société qui est Virgin Galactic, qui a émis récemment une obligation convertible auquel le fonds n'a pas participé. Bon, Virgin Galactic, vous avez une valorisation de plusieurs milliards. Le revenu se chiffre en millions.
D'accord, donc compliqué effectivement là. Bon, après ce sont des paris, c'est vrai qu'il y a des modes aussi. On se souvient, il y a eu des ICO il y a quelques années avec voilà des introductions en bourse en crypto currencies, en crypto monnaie. Bon, les SPAC, c'est des phénomènes de mode. Il faut mieux se méfier, attendre un peu et travailler donc sur des dossiers qu'on connaît. Exactement. Et des produits qu'on connaît, Laurent.
Nous sommes que sur des produits, ce qu'on appelle vanille, hein, en fait, très simple.
Simple.
Nous ne faisons aucun produit structuré, aucune option. On couvre l'échange, comme le disait Simon. Donc ce sont que des produits très très simples et qu'on comprend et qui sont compréhensibles par tout le monde.
Voilà, et je pense que c'est ce que vos clients attendent aussi, un peu de stabilité. Non, voilà, cet univers, autant la bourse l'an dernier, c'était sympa. Ça montait tranquillement, ou peut-être bien avec des à-coups, mais en tout cas, il n'y avait qu'une direction, c'était la hausse. Cette année risque d'être beaucoup plus compliquée. Et si on voit pour avoir comme ça des poches qui résistent et qui sont dans le vert et avec quelques points de base dans le portefeuille, c'est parfait. On rappelle le nom des fonds pour ceux qui nous écoutent depuis une vingtaine de minutes, Laurent.
Donc sur les deux fonds convertibles, donc le Dynasty Global Convertible, qui est notre fonds monde, le Dynasty Convertible Europe, qui, comme son nom l'indique, est notre fonds européen, et enfin le Dynasty Credit Sub.
Voilà, plus d'informations sur le site internet dynasty-am.lu. Voilà, comme Luxembourg, c'est là où vous êtes basé. Un grand merci à nos deux experts des solutions crédit, Laurent Pluchard, le directeur général de Dynasty AM, Simon Roger, merci, gérant Dynasty en direct du bureau. On vous retrouve, messieurs, très prochainement pour un nouveau numéro de solutions crédit. Très bonne journée à tous.
Les solutions crédit. Un podcast proposé par Dynasty AM à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.